de zéro à héros. C'est une petite série de capsules dans laquelle j'explique un peu comment moi j'ai vécu une dizaine d'années de carrière et la croissance qui est venue avec ça, puis un peu les patterns que j'ai remarqués. C'est la part 3. Puis c'est un peu l'étape où que j'ai validé le concept. Ça m'a pris quand même, tu sais, de 2009 à 2010, c'était comme vraiment le côté, j'avais pas d'espoir vraiment, mais j'ai découvert finalement cette passion-là tout de suite après que la sono puis la musique, la production de musique, c'était quelque chose qui se pouvait. Donc là, j'ai découvert cette passion-là et ça m'a pris peut-être un an, deux ans. Puis là, j'étais rendu à l'étape un peu de valider le concept. C'est que là, j'avais mis assez de temps pour comprendre le potentiel. Puis là, c'était devenu un petit peu plus qu'un hobby et c'était en train de devenir... Je voyais vraiment le potentiel de carrière là-dedans et ça, c'était vraiment motivant. Mais là, comment je fais pour en vivre? Comment je fais pour rentrer puis avoir un certain social proof? Là, comment je peux vendre ça finalement puis avoir une vie, trouver une job puis quelque chose qui marche? Au début, pour valider le concept, c'est sûr que j'ai eu une job, c'est ça, dans une shop de son chez Solotech. J'ai travaillé là pendant un an ou deux, genre de segue entre l'école puis le marché du travail. Puis je me suis rendu compte assez vite que j'avais pas envie de travailler pour quelqu'un, puis le côté de travail autonome me tentait vraiment. Puis là, j'avais deux axes. J'avais l'axe live sound pour les shows, puis j'avais l'axe studio aussi qui me faisait vraiment triper, puis j'avais comme... commencé à accumuler du bagage d'enregistrement par moi-même. Puis j'ai décidé de faire le grand saut et de me pogner un local qui allait me servir de studio. Ça a été mon premier studio plus officiel. Et là, c'était notre local de jam qui était juste à côté avec mon band, The Aftermath, dans ce temps-là. Puis j'avais mon studio juste à côté dans une espèce de cave un peu rouillée et mouillée dans Saint-Sauveur à Québec. Puis ouais, ça a été vraiment des beaux moments. Ça. On a essayé un paquet d'affaires. J'ai des belles photos de ça back in the day. C'était vraiment cool. Puis ouais, ça a été vraiment l'étape de valider le concept. Est-ce que je suis capable de faire ça dans la vie? Est-ce que je suis capable de vendre ça à quelqu'un, tu sais? Au début, c'est ça, je faisais majoritairement juste mon band, mais en faisant mon band, j'ai rencontré d'autres mondes qui faisaient des shows avec nous autres, puis là, il y en a qui m'ont demandé « Hey, tu pourrais nous aider à enregistrer notre EP, notre démo, recorder du drum? » Le drum, c'était comme une affaire que bien du monde avait de la misère à recorder parce que ça demande des connaissances un petit peu au-delà que juste mettre un micro en avant d'un ampli. Tu sais, le drum, c'est plusieurs micros qui doivent être en synergie pour créer cet instrument-là justement dans une pièce. Ça a été une des premières affaires. C'est qu'il y a une couple de monde qui m'ont demandé hey, « peux-tu m'aider à faire la prise de son d'un drum, recorder le drum, comment tu ferais ça, etc. » Fait que je me suis mis à faire ça. Avec le petit studio que j'avais, c'était vraiment trash, là. C'était vraiment DIY, punk underground, mon affaire, mais c'était vraiment le fun. On a eu des super de beaux moments. Puis c'est en recordant des bands autour dans la scène métal, mettons, à Québec, que éventuellement, je me suis mis à m'auto-former moi aussi, à rencontrer plus de monde, à apprendre sur Internet. Là, c'était comme le début des cours en ligne aussi. Là, il y avait un paquet de channels là, qui est sur YouTube qui commençait à popper puis qu'on pouvait apprendre des nouvelles techniques d'enregistrement. C'était le début de la popularité des plugins aussi. Tu sais, les ordinateurs commençaient à remplacer les équipements physiques qu'on avait. Fait que là, de plus en plus, j'étais capable, c'était plus accessible d'utiliser des plugins dans l'ordi puis de créer le son qu'on avait envie finalement. Ça fait que ça a été quand même vraiment, tu sais, c'était un timing qui m'a vraiment aidé, là, tu sais, de pouvoir avoir accès à cette technologie-là à ce moment-là. Je pense que ça a fait partie de cette croissance-là puis du momentum à un moment donné qui a embarqué. C'est que je me suis mis à comprendre mes plugins, je pense, mieux que la moyenne. Puis là, ben ça avait de la valeur sur le marché. En fait, ça avait de la valeur pour les bands que je recordais. Fait que là, les gens trippés étaient comme « Hey, Raph, il a compris quelque chose. » Il était capable de recorder des drums. Puis là, le mixage commençait à se placer aussi parce que je comprenais mieux les plugins. Puis ça a été vraiment à partir de là que là, un m'a référé. Un autre m'a référé, puis là, ça a été un peu la validation du concept, puis j'ai vraiment eu une espèce de petit momentum qui s'est installé avec des groupes que j'enregistrais. Puis c'est Dan, à ce moment-là, avec qui je travaillais chez Solotech. Sur la fin de ma courte carrière chez Solotech de la deuxième année, Dan m'a introduit. Il jouait de la bass dans un band qui s'appelle Sandvice. Puis, il m'a introduit à Luc et le reste du groupe. À ce moment-là, il y avait Jay, Dan et Luc qui jouaient ensemble. Puis, ouais, et avec Frank. Frank était chanteur, c'est vrai, il était quatre, c'était four piece. Il y avait un chanteur. Luc à guitare faisait des backs aussi. Puis, Dan à la bass et Jay au drum. Puis, ça a été le premier EP de Sandvice qui a été un peu mon cœur pour le rock, parce qu'avant, j'étais plus dans le metal. Puis là, le hard rock, le genre de new school, stoner, l'évolution de Black Sabbath, puis de Caius, il y avait comme un trend à Québec qui commençait à s'installer, c'était comme de plus en plus populaire, puis moi, ça m'a vraiment fait triper. C'était moins dense comme musique, ça, c'était plus ouvert, puis ça m'a fait apprendre à faire sonner les choses d'une autre façon. Mais en même temps, avec mon background un peu metal, heavy, death metal même, ça m'a fait apprendre à ce que les trucs, les éléments soient vraiment tight. Fait que quand j'arrivais dans le hard rock, ben j'avais tendance à faire des mix qui étaient assez tight, assez in your face aussi, parce que j'avais majoritairement mixé des tunes qui étaient plus metal. Fait que là, ben ça a été apprécié, j'imagine. Puis ça a été le début d'une histoire d'amour avec Sandvice. On s'est rendu compte qu'on trippait vraiment ensemble. On a fait le premier EP. Ça a été vraiment trippant. Les gars m'ont fait confiance. Moi, j'ai eu du gros, gros fun à faire ça avec eux. Puis à partir de là, ça a fait un petit peu boule de neige. Puis quand les gens ont entendu le premier EP de Sandvice, ben là, il y a d'autres bandes de rock qui ont voulu. Hey, moi, je veux. Luc, dans ce temps-là, et. Ouais, Luc et Jay travaillaient chez Musique Gagné, magasin de musique à Québec. Puis là, ben, veut pas, il y a une communauté autour d'un magasin de musique. Puis ça finit par créer de l'attraction. Puis là, tu sais, les gens venaient au magasin. J'imagine qu'eux autres, ils parlaient de l'expérience qu'ils avaient vécue. Puis là, ben, ça a créé un genre de momentum. Je me suis mis à rencontrer de plus en plus de monde. Il y a des gars de la scène métal aussi qui se sont mis à s'intéresser au hard rock. Puis qu'ils se sont mis à jouer. Puis à starter des bandes de rock. Fait que là, ils m'appelaient pour que je recorde leurs démos, leur EP, leur single, whatever, leur album. Puis, ouais, ça a été vraiment une espèce de OK. I can really do this. Genre, il y a du monde qui commence à me payer pour faire ça. Puis là, j'étais capable même, un moment donné, j'étais comme, hey, je peux peut-être charger un peu plus cher même. Tu sais, c'était comme, les gens, là, j'ai de la demande, puis je suis dans le jus. Genre, faut bien que je mange de ça. Puis je me rappelle cette époque-là, tu sais, la transition entre découvrir ma passion puis valider mon concept, ça a été tellement intense. Je faisais pas une scène au début, c'était épouvantable. Puis j'avais décidé de lâcher ma job chez Solotech pour me consacrer à 100% à l'enregistrement puis au live sound. Mais je faisais moins de live sound. J'étais vraiment focusé sur le studio, puis j'avais loué mon petit local. Puis j'avais fait un pas de budget à ce moment-là, mais je me suis rendu compte assez vite que j'étais pas capable de manger puis mettre du gaz dans mon char dans la même semaine. Tu sais, ça marchait pas. Si je mangeais, j'étais pas capable de me rendre chez nous puis de revenir au studio. Fait que là, j'avais comme un os. Fait que pendant, je me rappelle, un hiver presque au complet, une journée sur deux ou presque, je dormais au studio sur le divan. C'était un petit divan, deux places en plus, une causeuse que j'avais ramassée, je pense, gratis sur Kijiji parce qu'il n'y avait pas Marketplace sur Facebook encore. Puis ouais, là, c'était la petite causeuse. Je couchais en boule là-dessus, puis je fumais des battes, c'était incroyable. J'avais vraiment arrêté toute la drogue dure, mais en découvrant la music production, j'avais vraiment gardé le weed parce que ça me mettait dans un état d'esprit qui était vraiment focus. Ça créait une espèce de bulle autour de moi. Puis je vous dis pas de faire ça parce que c'est vraiment nocif à long terme, mais ça m'a quand même, ça a fait partie quand même, je pense, de mon cheminement d'être un pothead vraiment stoner. Ouais, de fumer des battes. Puis je fumais des smokes aussi pas mal dans ce temps-là. Mais j'avais vraiment slacké l'alcool, puis j'avais vraiment arrêté ou presque complètement toute la drogue dure. Fait que, tu sais, plus de poudre, plus de peanuts, de cochonneries, de moche, de whatever. J'avais tout laissé ça. Mais je fumais du weed en crisp, par exemple. Tu sais, je fumais genre à tous les heures du matin au soir. Puis je restais vraiment dans ma bulle. Je voulais plus sortir, je voulais plus quitter cette espèce de monde parallèle-là dans lequel que je vivais. Tu sais. C'était nocif. Mais je pense que ça a quand même contribué peut-être à une partie d'évolution de ma vie. Puis, looking back, je changerais rien, mais j'aurais peut-être pas tenu ça comme ça aussi longtemps, tu sais. Mais ouais, la portion entre j'ai découvert ma passion puis j'ai validé le concept, il y a eu comme une espèce de période où ce que c'était je grindais en esti, puis j'avais pas de ressources, puis je savais pas ce que je faisais, mais je savais que j'aimais ça, puis je commençais à avoir des indices de performance, qu'il y a du monde qui me donnait du feedback, que comme, hey, c'est cool ce que tu fais, tu pourrais-tu faire ça pour nous autres aussi, puis j'en ai parlé à un de mes amis, puis là, il y avait une espèce d'attraction qui commençait à s'installer, puis ça a été super motivant, puis ça m'a rentré dans la tête, puis c'est devenu un peu un genre de, OK, let's go, je me lance, fuck that, c'est ça que je veux faire dans la vie, puis là, je me suis mis vraiment à m'épanouir là-dedans. Puis c'est ce qui a créé avec Sandvice, on a eu un début de traction justement, le premier EP, on a fait l'album après, là j'ai commencé à avoir de la job d'autres bandes, puis ça a été un peu le début d'un certain succès puis d'une vraie carrière finalement qui commençait à me sourire et à se dessiner devant moi.